Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue pour notre émission. C'est la nouvelle année 2026, aujourd'hui nous sommes le 2 janvier 2026. Alors bien sûr, comme à l'accoutumée, il me convient de vous dire bonne et heureuse année en premier lieu de la part de Radio Alliance Plus, que vous écoutez fidèlement, j'espère. En tout cas, pour Dans nos communautés, nous sommes toujours heureux d'être avec vous. Et donc, je vous souhaite une bonne année, une année calme, une année heureuse et riche de belles découvertes. Et ce sont les promesses que l'on peut trouver dans le psaume 23 que nous lirons tout à l'heure. Mais pour le moment, je vous propose un temps de musique pour commencer, gigue et tambour du groupe Héritage. Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2 et vous savez que vous pouvez nous écouter en DAB+, ou bien sur nos podcasts sur radioallianceplus.fr. Aujourd'hui, 2 janvier 2026, pour cette nouvelle année pleine de promesses, nous pouvons les trouver, ces promesses, dans un psaume qui s'appelle le psaume 23, qui est très connu, qui a été beaucoup commenté ici et là, et que tout le monde a le plaisir d'entendre. Vous allez entendre tout de suite Louis Pernot, qui est pasteur à Paris et qui a été interviewé pour Regards protestants par Monsieur David Gonzalez, responsable éditorial de Regards protestants. Il va s'entretenir avec lui sur ce psaume, donc psaume un des plus connus, un des plus aimés aussi, et derrière l'image de la tendresse du berger se déploie une promesse de lumière et de salut. Plus qu'un réconfort, ce psaume ouvre des sentiers de liberté et d'espérance pour aujourd'hui. Et c'est bien de cela dont nous avons besoin pour 2026. Alors commençons par écouter ce psaume tout d'abord. Je vous le lis. Psaume de David, psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Voilà une traduction de la Nouvelle Bible Second de ce psaume 23. Et nous allons écouter maintenant le pasteur Louis Pernot qui nous fait un commentaire. Peut-être ne sera-t-il pas tout à fait exactement d'accord avec cette traduction, mais vous allez l'entendre maintenant. Et à la suite de ces commentaires du psaume 23 par Louis Pernot, vous pourrez entendre encore un chant de héritage, « Paix, ô mon âme ». Nous nous retrouvons juste après.
Merci de commenter le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ».
Bon, quel bonheur. C'est le psaume le plus connu, le plus aimé de tout le monde. Enfin, si on connaît un psaume, c'est celui-là. Et à juste titre.
Psaume de mariage ou psaume d'enterrement ?
Psaume de tout. On peut lui lire tous les jours. C'est évidemment, je dirais, c'est le psaume le plus connu du psautier. Et à mon avis, à juste titre, beaucoup de psaumes sont beaux, mais c'est évidemment probablement le plus beau des 150 psaumes de la Bible, évidemment. Donc, je ne peux pas reprocher aux gens de l'aimer.
Vous vous appuyez dessus pour retrouver des forces de confiance de temps en temps ?
Ben, je trouve que ce psaume est merveilleux à de nombreux titres, c'est-à-dire par la théologie qu'il comporte, en particulier le message qu'il a, et il y a de très nombreuses merveilles dans ce psaume. Et en partie, je dirais plusieurs particularités. D'abord, la comparaison de Dieu avec un berger, ça c'est de la théologie pure, c'est-à-dire qui est Dieu. Et de présenter Dieu comme un berger, c'est quand même extrêmement original. C'est-à-dire que Dieu n'est pas présenté comme un roi, comme un empereur, ni comme un guerrier, ni comme un juge, mais comme un berger. Et un berger, c'est quand même extrêmement gentil. Et j'aime bien ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'un berger, c'est bienveillant. Enfin, un berger, c'est pas un guerrier, c'est pas violent, c'est juste attentionné, ça s'occupe de ses brebis, c'est proche des gens. Et donc cette idée d'un Dieu proche, d'un Dieu doux, d'un Dieu qui nous accompagne, qui marche avec nous. Déjà, l'Éternel est mon berger, vous avez dit pratiquement tout l'Évangile, enfin, tout y est, quoi. C'est un Dieu d'amour et de proximité, donc voilà, ça suffit.
Il y a beaucoup d'audace dans la parole du Christ à reprendre cette conviction « Je suis le bon berger », celui annoncé peut-être dans Ézéchiel ou dans ce psaume.
Oui, alors c'est vrai que c'est un peu osé. Quand il dit « Je suis le bon berger », ben, un lecteur de l'Ancien Testament va dire ben, « tu te prends pour qui ? Le berger, c'est Dieu ». Donc quand il dit « Je suis le bon berger », il s'attribue un rôle qui est assez divin. Mais ça, c'est propre à l'évangile de Jean, qui a toujours tendance à présenter Jésus quand même du côté de Dieu. Et Jésus ne dira pas que ça, il dira aussi « Je suis la lumière du monde ». Or, si vous avez le courage de tourner une page, vous tombez sur le psaume 27, qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Donc, qui est la lumière du monde ? Ben, c'est l'Éternel. Et donc, Jésus est la prolongation à la fois du berger et de la lumière, le psaume 23 et 27, d'après l'évangile de Jean. Donc Jésus est la prolongation, donc il est à la fois le témoin de cette douceur, de cette tendresse de Dieu qui nous accompagne, c'est le Dieu de l'incarnation. Il est aussi la prolongation de Dieu en tant que lumière, c'est-à-dire de celui qui nous donne la liberté, qui nous instruit et qui nous ouvre un chemin. Je ne dis pas qu'il nous montre le chemin, parce que la lumière nous permet de trouver notre propre chemin, il ne l'impose pas. La lumière est infiniment respectueuse de celui à qui on la donne, si vous voulez. Et donc ce Dieu à la fois de tendresse et d'accompagnement qu'est le berger, mais on pourrait dire le berger, il est gentil, mais bon, il fait quand même aller les brebis là où il a envie. Le berger, il ne laisse pas valdinguer les brebis n'importe où. Et en même temps, il est aussi lumière, c'est-à-dire qu'il nous prend au sérieux, il nous ouvre un chemin et il nous permet de trouver nous-mêmes notre propre chemin. Donc en fait, chaque image doit toujours être complétée par une autre.
Vous pensez que la conviction que Dieu conduit ma vie, il me conduit, c'est au cœur de la foi, la guidance, la conduite de Dieu ?
Alors, Dieu nous conduit dans des sentiers de justice. Bien sûr que Dieu nous conduit, et en même temps, je reprends cette idée de dire que je me méfie toujours de l'idée que Dieu nous imposerait un chemin unique. D'ailleurs, si vous regardez bien, le mot « sentier » est au pluriel. Il ne dit pas « il me conduit dans le sentier », mais dans les sentiers. Donc, il y a plusieurs sentiers devant nous. Et si on reste dans la logique des psaumes, il y a un verset qui lui aussi est très connu et qui est important, mais J'ai mis longtemps à découvrir l'importance de ce verset, c'est le psaume 119, verset 105, qui dit « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et je me suis dit, c'est incroyable cette affirmation. Il ne dit pas que Dieu, c'est le sentier que l'on doit suivre. Il dit « Éternel, ta parole est une lumière sur mon sentier. » C'est-à-dire que chacun de nous avons une route, et Dieu éclaire cette route, et il nous permet de trouver la route qui est la nôtre avec lui. Donc autrement dit, chacun a un chemin, et chacun doit trouver ce chemin, accompagné par Dieu et éclairé par Dieu. Mais évidemment, évidemment que Dieu est celui qui en même temps nous met en chemin et nous montre comment, en fonction de ce que nous sommes, des circonstances, comment nous pouvons trouver un chemin qui est le nôtre. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est aussi ça. Et là encore, il prolonge l'image divine.
Ce n'est pas une question facile, effectivement, d'autant qu'elle se prolonge dans le psaume 23, « Quand bien même je passerai par l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Est-ce que le psalmiste croit que Dieu le conduira au-delà de cette vie, vers la vie éternelle ?
Ce psaume, effectivement, pourrait sembler un peu idéaliste et positif. Il me mène vers pâturage, vers les eaux paisibles, il restaure mon âme, il me couvre de parfums, tout va bien, tout est bonheur. Et en fait, la vie, elle est parfois difficile. Et c'est vrai que le cœur de ce psaume fait passer par la difficulté qui est l'expérience que toute vie doit avoir. Et il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre mort ou de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me guident et me rassurent. Et donc, évidemment, il évoque le problème du mal. Il m'arrive de marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et là encore, ce psaume a une théologie qui est incroyablement fine, parce que il n'est pas dans une logique superstitieuse en disant « si tu es fidèle, Dieu t'évitera l'ombre, il t'évitera la mort et tu n'auras aucun problème dans ta vie, tu seras guéri de toute maladie, tu n'auras pas de soucis, pas d'accident, pas de problème, etc. » Et non, quand je suis dans la vallée de l'ombre et de la mort, qu'est-ce qui se passe? Il ne dit pas « Dieu va te prendre de force pour te poser sur une plage ensoleillée ». Il dit « Quand je suis dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Donc je suis toujours dans l'ombre et la mort. C'est-à-dire que Dieu ne nous empêche pas le mal, la difficulté ou l'épreuve. Mais dans ce mal, je ne suis pas seul parce que Dieu est avec moi. Donc il y a cette présence de Dieu qui m'accompagne et cette promesse de dire « Même si tu as des problèmes, ce n'est pas Dieu qui t'envoie l'ombre et la mort, mais en tout cas, dans toute situation, ce que je te dis, c'est que là, tu ne seras jamais seul. » Et tu auras là le bâton, la houlette et le bâton de Dieu pour t'aider. Alors, la houlette, mes jeunes catéchumènes ne savent pas ce que c'est, personne ne sait ce que c'est qu'une houlette, vous le savez, oui. Ben, c'est la houlette, c'est le bâton du berger, en fait, vous savez, la crosse, là, c'est un mot qu'on oublie. Mais gardons l'idée du bâton, l'idée que l'aide que Dieu nous donne se fait avec le bâton, c'est une image multiple, parce que le bâton peut être beaucoup de choses. Donc, ce peut être effectivement le bâton sur lequel on s'appuie. Je crois qu'il y a dans la foi une dimension comme ça, c'est-à-dire que la foi est pour nous un soutien, une aide, et si tout s'écroule dans notre vie, il y a la foi qui tient bon, et en Dieu, je m'appuie sur Dieu, il est ma force, il est mon appui, mon soutien, ma forteresse, etc. Après, le bâton, c'est aussi le bâton du berger, donc la houlette, qui a plusieurs sens. D'abord, c'est ce grand bâton très haut qui est, sur lequel on peut tourner son regard, et qui indique la direction. Donc la foi, c'est ça aussi, c'est j'ai un idéal, j'ai une visée dans ma vie, c'est l'Évangile qui dit voilà, tu aimeras, tu pardonneras, tu donneras le service. Donc j'ai une visée et cette visée me met en route et me permet de trouver moi-même le meilleur chemin pour aller vers cet idéal. Après, le bâton du berger, ben, c'est aussi le bâton qui, parfois le berger, ben, il donne un petit coup sur les brebis pour les faire avancer, il dit allez, allez, vas-y, avance. Et puis non, tu t'égares. Et donc c'est aussi ce bâton qui nous guide, parce qu'il y a aussi ça dans la foi. La foi, ce n'est pas que de dire « tout va bien, je vous rassure, je vous aime, je vous soutiens, faites ce que vous voulez », c'est aussi de dire « attention, là, ce n'est pas le bon chemin, ça, c'est la mort, ça, c'est dangereux, ça, ça ne va pas, ce n'est pas l'amour ». Et donc, c'est aussi ce bâton qui nous ramène. Et puis encore, bon, je pourrais multiplier les images du bâton que j'aime beaucoup, mais la dernière image que je conserverai, c'est celle du le sceptre royal, c'est-à-dire que c'est le bâton du roi, comme le sceptre, oui, qui indique la royauté, et que donc, c'est aussi lorsque je... Dieu est certes mon berger, mais lorsque je dis bien, ce berger, j'en fais mon roi, et je reconnais que c'est lui qui est mon seigneur, en fait, celui que je veux servir, celui à qui je veux consacrer ma vie, ça donne aussi sens à ma vie. Et donc voilà, la promesse de ce psaume est, je crois, extrêmement réaliste, en disant par rapport au mal, le mal n'est pas voulu par Dieu, et l'aide que me donne Dieu, c'est pas de m'éviter le problème, mais c'est que dans la difficulté, j'ai ce bâton qui à la fois me guide et me rassure, qui est à la fois un soutien et qui est en même temps une direction qui m'est donnée.
Et le psaume 23 se conclut par une très belle image, celle d'un banquet. Tu dresses devant mes ennemis une table, tu verses du parfum sur ma tête, ma coupe déborde. Est-ce que selon vous c'est une image du banquet céleste ou du repas du Christ ?
Vous avez sûrement raison, mais comme je suis moins mystique ou théologien que vous, je ne serais pas allé jusque-là. J'aurais dit qu'il y a plein de belles choses là-dedans. Par rapport à mes ennemis, tu dresses une table devant moi. C'est-à-dire que tu me permets la réconciliation avec mes ennemis, soit humains, soit avec ce qui, dans ma vie, me semble contraire à ma volonté ou à ce qui pourrait être pour moi source d'équilibre ou autre. Donc on a plein d'adversités dans notre vie, des handicaps, des difficultés, des épreuves. Et Dieu me permet de m'asseoir à la table de ces difficultés, humaines ou intérieures ou spirituelles, et d'en faire un banquet de joie, c'est-à-dire de faire en sorte que je puisse faire la paix avec ce qui pour moi était source de complications dans mon existence. Et après, tu verses du parfum, alors c'est pas de l'huile, enfin, si c'est de l'huile, mais c'est pas le mot là qui est l'onction messianique, hein, c'est de l'huile parfumée dans la Bible, donc tu verses du parfum sur ma tête et ma coupe déborde, c'est-à-dire même quand j'ai l'impression de manquer de tout, même si j'ai de l'adversité dans ma vie, en fait en Dieu, ben, j'ai tout ce qui me suffit, j'ai tout ce qui me convient, donc j'ai tout ce qu'il me faut. Et puis, ce que j'aime dans ce psaume, peut-être par-dessus tout, c'est qu'en fait, c'est un psaume de grâce et d'autre chose que je vous dirai tout à l'heure. Donc de grâce, oui, parce qu'il n'y a aucun jugement là-dedans. Il ne dit jamais « je verserai du parfum sur ta tête » si tu es sage, si tu es croyant, si tu as bien agi, si tu... L'Éternel est mon berger, point. Il me conduit dans de verts pâturages, point. C'est-à-dire tout est cadeau de Dieu et il n'y a aucune condition. C'est incroyable, c'est-à-dire que c'est vraiment un des psaumes les plus absolus, les plus extraordinaires au niveau de l'expression totale de la grâce. Tout est donné sans aucune condition. Ça, c'est merveilleux, c'est quand même pas si souvent. Donc Dieu est juste source de dons et nous sommes invités à recevoir. Et puis l'autre chose, comme nous avions dit lors d'un autre commentaire, j'aime commenter ce que personne ne commente, c'est-à-dire le titre des psaumes. Là, souvent on oublie, les gens commencent en disant « l'Éternel est mon berger » ou « le Seigneur est mon berger » si on est catholique, mais quel est dommage de mettre le Seigneur alors que le texte met l'Éternel. Justement, il est berger, le Seigneur, il n'y a pas de Seigneur là-bas, c'est Dieu lui-même qui est berger. Mais surtout, il y a un titre, psaume de David. Alors, psaume de David, pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, quelle est l'importance de savoir si c'est David, Salomon, Moïse ou les fils de Corée qui ont écrit ce psaume? Eh bien, ça a un sens absolument important, et donc il ne faut pas oublier ce titre que souvent les gens oublient, parce que David, c'est un nom propre en hébreu, mais c'est aussi un mot commun. Dod, en hébreu, ça veut dire l'amour. C'est comme ça, donc David s'appelait le roi aimé ou le roi amour, quoi. C'est son nom. Et donc, psaume de David, ça veut dire chant d'amour. Et donc voilà, c'est à la fois le psaume de la grâce, et c'est un psaume qui ne dit qu'une chose, ben c'est l'amour de Dieu en fait. Donc c'est vraiment le plus beau chant de l'amour de Dieu pour sa création, et qui nous aime du début à la fin, même en passant par la vallée de l'ombre et de la mort.
Et en toute fin, il est question du bonheur, le bonheur et la grâce, et de l'évocation d'un temple. Ça va ensemble, le bonheur, le temple, la grâce, pour vous ?
Moi, le temple, je n'irai pas jusque-là, parce que là, ça nous ramène dans des images ecclésiales, c'est-à-dire, oui, le bonheur, il est dans le temple de l'étoile, hein, chez moi, quand vous venez au culte à 10h30 le matin.
Et à Belleville aussi, je crois.
Mais ce n'est pas une question de temple. La maison de l'Éternel, ça veut dire d'arriver à être dans l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que si je vous invite chez moi, ou si je vais chez vous, ou quand j'arrive dans l'intimité de quelqu'un, je vais chez lui, je rentre dans son intimité. Et habiter dans la maison de l'Éternel, c'est spirituellement quelque chose de merveilleux, d'être dans l'intimité de Dieu. Un roi tout-puissant, Vous n'avez pas le droit d'aller dans son palais. Moi, je ne suis jamais invité à l'Élysée chez M. Macron. Hein. Je ne fais pas partie de ses intimes. Je n'ai pas le droit d'y aller. Mais j'ai le droit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est quand même incroyable. Quel honneur que ce Dieu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, eh bien, je peux aller dans sa maison. Donc, d'être dans l'intimité de Dieu. Et c'est encore un effet de sa grâce, puisque moi, je ne le mérite pas. Et que c'est là, effectivement, la grâce, le bonheur, tous les jours de ma vie. Et je peux habiter. Alors, là, la traduction du dernier verbe, est, on ne sait pas, est-ce que c'est « je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours » ou « j'habiterai la maison de l'Éternel ». Personnellement, j'aime mieux « j'habiterai » et j'aimerais mieux encore, non pas mettre le verbe au futur, mais au présent, puisque en hébreu, il n'y a pas de présent, de passé ou de futur, c'est des verbes qui sont à l'inaccompli, donc c'est un présent qui se continue dans le futur. Et l'idée de mettre ces psaumes au futur, c'est une erreur de traduction, à mon avis, parce qu'on a l'impression que c'est une promesse pour demain, ou on ne sait pas quand. Plus tard, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, mais pour l'instant, je suis dans la difficulté, mais bon, peut-être qu'un jour ou l'autre, ça ira mieux. Ce n'est pas ça. C'est j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, et c'est un inaccompli, donc j'habiterai aussi. Mais ça commence aujourd'hui. Et donc, tous ces psaumes doivent être au présent. J'habite la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie.
Humblement en suivant ces sentiers, cherche sans cesse à lui plaire en premier. Chassera les ombres de ta plus sombre nuit. Paix au mon âme, paix au mon âme, paix au mon âme.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus. Vous écoutez bien sûr le 103.2, encore avec la nouvelle année qui commence. Et vous venez d'entendre un chant, « Ô mon âme », par le groupe Héritage. Et puis avant cela, vous avez pu entendre Louis Pernaud, pasteur, qui était interviewé par David Gonzalez, responsable éditorial du Regard protestant, qui l'interrogeait sur le psaume 23. Et bien voilà que maintenant, cette année nouvelle est terminée par cette émission, mais elle démarre bellement avec ce psaume 23, et j'espère que vous pourrez mettre en pratique tout ce que vous avez pu entendre, et surtout que vous pourrez le vivre, une vie donc paisible, heureuse et calme pour cette année 2026. Voilà ce que je vous propose de vivre, et nous disons bonne année. Toute l'équipe de Radio Alliance Plus vous dit bonne année et je vous dis au revoir à la semaine prochaine pour d'autres aventures pour cette année 2026.